Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et organisatrices. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, ça va reprendre en réalité les grandes lignes de choses qu'on a déjà développées par ailleurs, notamment dans une note du STRASS sur la PrEP qui est disponible sur notre site internet. www.stras-syndicat.org et un article que j'ai écrit, que j'ai coécrit avec Thierry Schaffhauser, qui a été quant à lui publié sur la revue Contretemps Web. La note du Stras est plus factuelle sur le rapport des travailleuses du sexe à la PrEP. L'article sur Contretemps part un petit peu plus dans des constats et revendications politiques. Donc, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc, comme ça a été dit, en effet, la note du Stras sur la PrEP a notamment été rédigée en réaction à ce questionnaire qui. Je vais revenir sur ce qui a été dit sur Thierry qui voulait donc qu'on ait un budget pour ça, parce que je pense que ça demande des explications, même si on est un syndicat travailleuse du sexe. C'est vrai que, bon, je vais revenir après, mais c'était une période où on avait énormément de priorités politiques, où la pénalisation des clients était en discussion au Parlement, etc. Et on voyait tout cet enthousiasme sur la PrEP, où on voulait avoir notre avis. Dans le même temps, il y a également les CHYPERGAY qui voulaient recruter chez les travailleurs du sexe, qui nous demandaient notre avis sur des campagnes et qui, je dois avouer, ne nous ont pas plu. Mais du coup, c'était un climat qui nous ont trouvé un petit peu tendu par rapport à ce sujet-là, et donc on a vraiment senti la nécessité de présenter notre position en tant que syndicat sur cette question. Donc cette note a été rédigée, donc voilà, suite à des discussions qui ont été la note du Stras sur les questionnaires, sur les CHYPERGAY de manière générale, etc. Et on s'est également basé, parce qu'en fait c'est pareil dans plein de pays. Et si bien que le NSWP, qui est donc le Global Network of Sex Worker Projects, le réseau mondial des projets de travailleuses du sexe, a lui aussi lancé sa consultation, mais qui est cette fois-ci une consultation donc communautaire à l'initiative d'un réseau de travailleuses du sexe pour avoir notre avis, mais dans le cadre d'un outil qui nous serve à nous et non pas où on répondrait à des instances extérieures. Et il se trouve que le résultat de cette enquête internationale reprenait en fait dans les grandes lignes ce qu'on avait déjà pu développer comme réflexion au sein du Stras via les questionnaires. Donc, avec notamment un certain nombre de préoccupations des travailleuses du sexe vis-à-vis de l'outil de la PrEP. Donc, dans un premier temps, je ferai un peu le point, voilà, sur ces réserves, sur ces préoccupations, sur ce rapport des travailleuses du sexe à la PrEP. Et ensuite, je reviendrai donc un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure plus longuement, à savoir le contexte dans lequel ce débat prend place, ce contexte pour les travailleuses du sexe, un contexte donc marqué par la criminalisation de leur activité, notamment, et une intense stigmatisation et une précarisation, etc. Et du coup, à la fin, je reprendrai un petit peu de manière rapide les réflexions qu'on a pu développer par ailleurs, qui, selon nous, sont des questions qui concernent peut-être moins directement la PrEP et le travail du sexe, mais auxquelles ce débat doit nous engager en tant que militants et militantes politiques. Donc, sur la question donc, du. Du rapport des travailleuses du sexe à la PrEP. Donc, je disais tout à l'heure que ça, autant ce qu'on a pu discuter en France que donc l'enquête qui a été menée au niveau international, le constat était un peu le même. Donc, je vais citer le rapport du NSWP qui dit les travailleuses du sexe ont exprimé une grande incertitude à l'égard de la PrEP et d'une mise sous traitement précoce. La majorité des participants étaient sceptiques quant à ces stratégies et beaucoup ont déclaré qu'ils ne voudraient pas adopter la PrEP comme stratégie de prévention. Donc, je vais maintenant essayer de faire un petit peu le point sur les réserves donc exprimées par les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe. J'utilise un féminin générique, mais il faut entendre travailleurs, travailleuses, et entre les deux et les autres. Donc les réserves exprimées par les travailleuses du sexe vis-à-vis de la PrEP. Donc il y a en effet, comme on l'a vu, le fait que la PrEP ne protège pas des autres IST, ce qui fait craindre un risque vis-à-vis d'autres infections sexuellement transmissibles, pas mortelles, mais cependant sérieuses, notamment des hépatites, et ne protège également pas des grossesses pour les travailleuses du sexe susceptible de tomber enceinte. La PrEP est perçue comme un outil plus lourd que le préservatif, qu'il est plus facile d'oublier. Alors certes, sur ce point-là, l'essai hyper-gay semblait notamment plus intéressant que l'essai IPREX ou AIPREX, j'ai l'impression que ça change la prononciation, puisqu'on parle donc d'une prise du médicament qui est ponctuelle en fonction des périodes d'activité sexuelle. Et donc, cette manière de prendre l'antirétroviral pourrait notamment aider les travailleuses du sexe occasionnelles qui savent à l'avance quand ils ou elles vont avoir des rapports sexuels. Mais c'est vrai que pour les travailleuses du sexe qui concernent tous les jours, ça ne change rien. La contrainte reste quotidienne. Et y a la question qui se pose de quand on est dans le travail du sexe. On ne sait pas toujours. Enfin, c'est très difficile de prévoir à quel moment on va avoir des clients. Très souvent, ils sont imprévisibles. Et avec d'autres questions, mais qui là, je pense, auront des réponses au fur et à mesure des recherches sur combien de temps exactement il faut le prendre, comment s'organiser. Mais c'est vrai que ça, c'est des questions, je pense, qui sont amenées à avoir des réponses plus précises dans les temps à venir. Une autre réserve dont on a également parlé brièvement tout à l'heure, c'est la crainte que la PrEP entraîne une pression plus forte à des rapports sans préservatif. Sachant que cette demande, cette pression est déjà fortement existante du fait de la précarisation, du fait de la stigmatisation, où ça devient de plus en plus difficile d'imposer ces conditions, notamment sur le port du préservatif, avec une désinformation qui se fait toujours en faveur des clients qui vont profiter de leur position pour dire « mais non, je te jure, une fellation, tu risques rien ». Bon, c'est des faits qui se discutent. Et donc, c'est vrai que dans ce contexte où la demande, la pression pour avoir du sexe non protégé par le préservatif est déjà assez forte, on se demande un peu pour les travailleuses du sexe qui ne désirent pas suivre cette prévention, donc de la PrEP, qui souhaitent en rester au préservatif, quel impact ça peut avoir sur elles, dans la mesure où on sait très bien que les clients préfèrent souvent, ou vont préférer, préfèrent de manière générale, enfin un certain nombre en tout cas, préfèrent recourir aux services de travailleuses du sexe qui affichent du nature, ce que pourront faire les travailleuses qui sont sous PrEP, et de telle sorte que ça accroît la concurrence entre les travailleuses, avec du coup une forte incitation pour les travailleuses qui ne peuvent pas prendre de PrEP ou qui ne veulent pas du coup aligner malgré tout leur pratique sur du sexe sans préservatif. Sachant que c'est justement les travailleuses les plus précaires qui risquent d'avoir un accès plus difficile à la PrEP. C'est très des pronostics, hein, puisque pour l'instant, on ne parle pas de distribuer la PrEP aux travailleuses du sexe, mais c'est des questions qu'on souhaite soulever dès aujourd'hui, parce qu'il faudra se les poser à temps. Sachant que la précarité est déjà bien souvent une entrave majeure à l'accès aux services de santé, notamment en raison également de la répression, et donc il y a également des questions de classe qui se jouent sur les questions de travail du sexe et de PrEP. Ensuite, il y a des réserves liées à la méconnaissance du médicament, la crainte des effets à long terme, etc. Autre chose qui a été soulevée, c'est le fait que quand on parle de travail du sexe, on porte toujours la responsabilité de la prévention sur la travailleuse du sexe. Il n'y a pas de campagne qui s'adresse aux clients. Il y en avait eu une à Lille il y a quelques années, mais elle a été très brève, faute de financement. On a peur également que la PrEP ne change pas ce rapport de force. C'est toujours à la travailleuse de se doter des outils qui lui permettent de minimiser les risques. Et n'y a aucune responsabilisation des clients qui est proposée. Ensuite, il faut également noter que la prise régulière d'un traitement est quelque chose de très compliqué pour de nombreuses travailleuses du sexe. La nécessité d'un suivi médical en tant que travailleuse du sexe les amène du coup à devoir déclarer leur activité, ce qu'un grand nombre ne peut pas en raison de la stigmatisation et des risques familiaux, sociaux que ça pourrait leur faire prendre. La stigmatisation qui est déjà en tant que telle une barrière, même pour les travailleuses du sexe qui pourraient être intéressées par cet outil. Inversement, c'est l'enquête du NSWP qui en parle beaucoup, une certaine crainte en ce qui concerne les pays réglementaristes qui imposent déjà des tests médicaux aux travailleuses du sexe, notamment ensuite pour pénaliser, notamment dans les pays qui pénalisent la transmission du VIH, comme la Suède, où du coup il y a une répression des travailleuses du sexe séropositives en tant que séropositives, ce qui justifie un contrôle social que là aussi la PrEP pourrait accroître avec ta crainte que le droit élémentaire de refuser un traitement alors qu'on n'est pas malade pourrait faire assez, hélas, peu de poids face aux volontés de certaines de contrôler l'état de santé des travailleuses du sexe par crainte toujours qu'elles ne contaminent le reste de la société puisque c'est toujours leur responsabilité. Par ailleurs, nous rappelons également que la majorité des prises de risque chez les travailleuses du sexe se déroulent lors des rapports sexuels qui ont lieu dans la sphère privée et non pas avec les clients, quand les travailleuses du sexe sont évidemment en position de pouvoir imposer leurs conditions. Donc la PrEP peut être en effet un outil intéressant dans ce cadre, mais a priori pas dans le cadre du travail du sexe, pour les raisons donc évoquées déjà de pression à des rapports non protégés, ce qui aura une incidence sur l'ensemble de la communauté des travailleuses du sexe. On sait que le préservatif pour les travailleuses du sexe ne sert pas seulement d'outil de prévention, mais également de barrière émotionnelle avec les clients, et permet ainsi de faire la différence entre le travail et la vie sexuelle et affective privée. Donc la PrEP ne doit pas peser sur l'usage du préservatif qui est plus qu'un outil de prévention dans la communauté des travailleuses du sexe, en particulier chez les femmes. Enfin, le manque d'enthousiasme des travailleuses du sexe pour la PrEP, comparé notamment aux communautés gays et HSH, peut également s'expliquer donc par le fait que les problématiques de prévention chez les travailleuses du sexe sont assez différentes de celles chez les gays, puisque, par exemple, la problématique d'une potentielle baisse de plaisir sexuel avec le préservatif, qui est exprimée par certains gays, c'était le cas, je crois, dans Marc-André, ne l'est a priori pas pour l'instant pour les travailleuses du sexe, dont le but premier de ces rapports sexuels est non pas le plaisir, mais le gain économique. C'est peut-être pour ça qu'on note également, d'ailleurs, chez les travailleurs du sexe gays, une relâche des outils de prévention, en réalité, qui est plus dans leur pratique privée que professionnelle. C'était l'enquête Net Baromètre Gay qui faisait état de cette différence à prendre en compte. Enfin, il convient donc de rappeler que les derniers résultats de la PrEP, s'ils sont plutôt encourageants quant à l'efficacité de celle-ci, précisent également que l'efficacité de la PrEP est relative à son contexte d'utilisation, à savoir celui qui a été proposé notamment par l'essai Hypergay avec des outils de prévention en disponibilité, du counseling aux participants, tout ce qui permet une information et une appropriation au mieux des savoirs et des outils de prévention. Et ce modèle est très difficilement transposable chez un public qui est criminalisé, puisque cette criminalisation rend déjà très difficile le simple accès des associations de santé aux travailleuses du sexe isolées, rien que pour distribuer des préservatifs. Donc je vais en venir maintenant justement au point sur la criminalisation et donc les questions, les liens entre ce qu'on peut penser de la PrEP et la criminalisation du travail du sexe. Donc, je rappelle que ça a été présenté lors du congrès de Melbourne, le numéro du Lancet sur le travail du sexe, qui confirme que la criminalisation du travail sexuel est l'entrave la plus grande à la prévention chez les travailleuses du sexe. cette répression qui est directement responsable de l'échec des politiques de santé au sein des travailleuses du sexe, puisque quand la police confisque des traitements ou du matériel de prévention, quand elle utilise la détention de préservatifs comme preuve, élément de caractérisation du délit de racolage, ça a des conséquences directes sur notre santé. Dans ce contexte, il est difficile de croire qu'il suffit de proposer la PrEP comme nouvel outil pour lutter contre l'épidémie chez les travailleuses du sexe. Quand les travailleuses du sexe sont placées en garde à vue pendant de longues heures sans qu'elles puissent prendre leurs médicaments, ça remet évidemment en cause la possibilité d'avoir une bonne observance également de la PrEP. C'est ce que subissent donc en effet déjà les travailleuses du sexe séropositives, sans que personne ne s'en émeuve, sans que rien ne soit fait là-dessus. Et c'est pour ça que pour nous, la priorité, c'est d'abord de mettre fin à cette répression, d'assurer notamment que les travailleuses migrantes qui sont porteuses de pathologies graves ne soient plus menacées d'éloignement du territoire, également dans un but d'une répression qui ne touche pas que les travailleuses du sexe, mais également notamment les personnes migrantes. C'est également la répression qui réduit le pouvoir de négociation des travailleuses du sexe face aux clients qui veulent des rapports non protégés, puisque plus on est précarisé par la répression, plus c'est difficile de refuser des clients, de refuser les conditions qu'ils demandent. Et c'est pour ça qu'en ce qui concerne le STRAS et de manière générale les organisations de travailleuses du sexe, on estime que la pénalisation du racolage, la peut-être future pénalisation des clients, sont des enjeux de santé bien plus importants que la PrEP, en ce qu'ils ont une incidence bien plus directe sur notre accès aux soins et à la prévention. On peut noter par exemple qu'aux États-Unis, où la PrEP, donc. Le débat n'est pas au même point qu'ici, hein, évidemment. Les campagnes des travailleuses du sexe n'étaient pas sur la PrEP, elles étaient sur l'abrogation de la loi qui, à New York, permettait d'arrêter des travailleuses du sexe au prétexte qu'elles avaient des préservatifs. Elles étaient sur le fait qu'il suffit d'être une femme trans non blanche dans certains États pour être accusée de prostitution quand tu marches dans la nuit, dans la rue. Dans la nuit aussi, des fois, mais aussi le jour. Voilà, il y a des urgences qui font que la PrEP aujourd'hui ne peut pas se poser dans les termes dans lesquels on nous la pose souvent. Pour conclure sur les effets de la pénalisation, donc c'est évidemment un dispersement des scènes de travail sexuel, de rue comme du travail indoor, leur maintien dans la clandestinité et toute une répression qui fait fortement reculer les acquis de 30 ans de santé communautaire, alors même que celle-ci devrait être la priorité du monde institutionnel, médical et associatif. Quand la menace de pénalisation des clients n'est toujours pas écartée, nous déplorons assez fortement que la priorité du monde de la santé et de la lutte contre le sida et les IST ne soit pas de s'opposer à cette criminalisation accrue. Il nous paraîtrait plus pertinent que les associations de santé et de lutte contre le sida jouent un rôle dans les débats politiques sur la pénalisation, plutôt que dans les débats qui veulent juste nous inciter à changer nos modes de prévention. On notera également une certaine ironie dans le fait que le gouvernement et les pouvoirs publics fassent la promotion de nouveaux outils comme la PrEP afin de pallier aux conséquences néfastes des politiques répressives dont la responsabilité leur incombe. Cependant, il n'en reste pas moins qu'on pense vraiment que les nouveaux outils de prévention peuvent être intéressants lorsqu'ils sont utilisés dans de bonnes conditions. Mais au vu des conditions actuelles et probablement à venir d'exercice du travail sexuel, nous craignons que la PrEP n'ait pas de meilleur résultat que ce que nous avons déjà obtenu avec le préservatif, puisque l'efficacité d'un outil de prévention n'est pas uniquement liée à celui-ci, mais principalement à son contexte d'usage. L'intérêt de la PrEP parmi les travailleuses du sexe, mais aussi parmi toutes les populations concernées, sera donc conditionné à un contexte d'usage favorable qui permette que cet outil apparaisse véritablement comme un choix supplémentaire et non comme une option vers laquelle nous poussent des contraintes d'ordre structurel. On notera également que cette logique est assez emblématique donc des paradoxes de l'État français à l'égard des travailleuses du sexe, puisque d'un côté, ce serait à nous d'être individuellement responsables non seulement de notre prévention, mais de celle de nos clients et via eux de toute la société, mais de l'autre, on continue à être considérés comme des irresponsables à protéger elles-mêmes via des lois qui répriment notre travail. Et par ailleurs, ça j'y reviendrai dans le point plus politique. Donc voilà, en ce qui concerne, je suis désolée, c'était un petit peu confus. En ce qui concerne le point sur les liens entre répression du travail sexuel et lutte contre le VIH. Ensuite, en tant que STRAS, c'est vrai que ce débat pour nous était l'occasion aussi d'essayer de faire émerger des questions politiques qu'on aimerait entendre plus souvent mises en débat, au moins, dans le milieu de la lutte contre le VIH de manière générale, et notamment le milieu LGBT. Puisque, première chose qu'on peut noter, quand même, c'est l'impression pour les travailleuses du sexe, donc j'en ai parlé tout à l'heure, de se faire imposer un agenda, puisque la PrEP n'a jamais été dans nos revendications. Et donc cette manière dont un agenda est imposé à nous, ça nous mène à la question de ce que nous voulons en tant que personnes potentiellement concernées par le VIH. Et lorsqu'on constate l'énergie et les financements investis, entre autres par l'industrie pharmaceutique, dans la recherche et la promotion de la PrEP, qui pourrait évidemment devenir une manne financière considérable si des millions de séronégatifs perçus comme à risque se voyaient encouragés à prendre ces traitements, on se demande donc à nouveau pourquoi si peu d'argent, en revanche, de la lutte contre le sida est investi dans des programmes de plaidoyer contre la criminalisation du travail du sexe, étant donné que ce contexte est pourtant la première cause structurelle de vulnérabilité des travailleuses du sexe au VIH. On se demande également pourquoi les gouvernements et institutions envisagent la promotion de nouveaux outils de prévention plutôt que de réfléchir aux conséquences néfastes de leurs politiques répressives et stigmatisantes. Cela revient au sujet des travailleuses du sexe à fermer les yeux sur les causes du problème que l'État a lui-même créé et à divertir notre attention en proposant des réponses qui ne sont pas demandées par les concernés. L'avis du Conseil national du SIDA le Conseil national du SIDA en France, hein, sur la PrEP, écrivait qu'avec la PrEP, il s'agit de, je cite, faire le pari de l'autonomie et de l'intelligence. Mais on peut se demander de quelle autonomie il est question, puisque lorsque, sous prétexte que le travail sexuel est une réponse à une nécessité, celles et ceux qui l'exercent font l'objet d'un traitement d'exception. Et de quelle intelligence parlons-nous lorsque l'approche répressive des questions sociales n'est toujours pas remise en question, lorsque les mouvements de lutte contre le sida mettent autant de temps à comprendre l'importance de la décriminalisation du travail du sexe et de sa reconnaissance comme travail, ou encore peinent à s'emparer de la terminologie mise au point par les personnes concernées pour les désigner. Là, on fait référence à... C'est même plus une réticence, quoi, de certaines institutions de lutte contre le sida en France qui refusent de parler de travail du sexe, qui en sont toujours avec le personne prostituée en situation de prostitution, qui a une terminologie dénoncée comme étant stigmatisante par les premières concernées. Enfin, pourquoi nous demander notre avis sur la PrEP, puisque, de toute manière, toutes nos critiques sur l'action gouvernementale en matière de lutte contre le VIH ne sont jamais écoutées. D'autres questions évidemment se posent concernant par exemple les prix des traitements, les appels à la responsabilisation individuelle dans un contexte de désengagement de l'État du service public de santé, des questions qui selon nous mériteraient d'être plus souvent posées. Enfin, se pose également la question d'un milieu de la lutte contre le sida essentiellement dirigé par des gays, à destination des gays ou HSH, qui peut tendre à invisibiliser ou à minorer les problématiques des autres populations clés dans la lutte contre l'épidémie. Voilà, donc je conclurai en disant que c'est d'autant plus appréciable d'être ici dans un mini-panel sur le travail du sexe, malgré tout. Merci.